On va commencer notre étude, Hébreux 6, versets 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, demandons la bénédiction du Seigneur. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple, nous venons à tes pieds ce matin. Et Seigneur, nous nous apprêtons à étudier ta parole, ta sainte parole. On sait, Seigneur, que ta parole est d'une profondeur inimaginable, qu'elle est riche, qu'elle est pleine de sagesse, qu'elle est pleine de bonté, pleine de miséricorde, pleine d'encouragement. Et sans doute, Seigneur, chaque fois qu'on étudie un passage, le but principal est que l'on apprenne quelque chose, que l'on applique quelque chose dans nos vies pour nous laisser transformer, pour ressembler davantage à Jésus-Christ et pour changer les choses qui sont à changer dans nos vies. Alors, tu le fais par ta parole. Alors, Seigneur, on te prie que ton esprit, non seulement soit avec moi pour délivrer le message, mais aussi qu'il soit avec les auditeurs de manière à ce qu'ils profitent grandement de ce que tu as à leur enseigner. Alors, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va regarder aujourd'hui, j'ai intitulé le message aujourd'hui, « Le salut des élus est triplement assuré ». Alors, il est assuré par une promesse divine dans les versets 13 à 15. Il est aussi assuré par un serment divin, versets 16 à 18, et il est aussi assuré par une personne divine, versets 19 et versets 20. Alors, le chapitre 6, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est dedans. On va faire un peu une révision de l'ensemble du chapitre de manière à savoir qu'est-ce que l'auteur cherchait à véhiculer à ses auditeurs en leur écrivant ce message-là. Alors, les croyants juifs sont invités à renoncer à leur projet d'abandonner leur foi en Christ pour retourner vers le judaïsme, dans les versets 1 à 3. Dans les versets 4 à 8, l'auteur leur sert un très sévère avertissement du danger d'apostasie dans lequel ils se trouvent. Lorsqu'on avait étudié le passage, on s'était rendu compte que c'était des inconvertis. Les descriptions qui sont données des versets 4 à 6, c'est des inconvertis. Mais Jésus a quand même donné un sévère avertissement. Et il finit ici par leur donner un encouragement. On avait vu dans le verset 9 qu'il leur avait dit « Oui, 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 ces gens-là dont on parle, qui pourraient être apostats, mais pas vous. » Il a dit dans le verset 9, si on y retourne, pour qu'on voit le fil conducteur de l'idée, il dit « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Alors, il est en train de leur dire « À mon opinion, en ayant vu votre foi, en ayant vu de la manière dont vous exprimez votre foi, en ayant vu votre marche chrétienne, je considère que vous n'êtes pas de ces gens qui veulent apostasier pour différentes raisons. » Alors, on avait vu la semaine dernière sur quoi ils se basaient pour dire qu'ils croyaient que ces gens-là n'étaient pas des apostats. On avait vu que sa façon de le percevoir, c'était par la pratique, par ces gens-là, des vertus théologales. On revient un petit peu sur la notion de vertu théologale. Vertu théologale, c'est des vertus qui ont Dieu lui-même pour objet. Si je parle, disons, de bonté, disons, on va dire de quelqu'un, oh, il y a une belle vertu, il est bon, mais il est bon envers les êtres humains. C'est pas une vertu théologale. La foi, l'espérance et la charité ont uniquement Dieu lui-même pour objet. C'est pour ça qu'on les appelle théologales. Ils avaient observé dans leur vie une façon de vivre qui démontrait qu'ils avaient la foi, une façon de vivre qui démontrait qu'ils avaient l'espérance, une façon de vivre pour démontrer qu'ils avaient l'amour ou la charité, dépendamment. Alors déjà, il les avertit sévèrement, mais après ça, il revient puis il dit « Je ne crois pas que vous êtes de ces gens-là, pour les simples et bonnes raisons que vous pratiquez les vertus théologales. » Et aujourd'hui, il continue, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, son puissant encouragement. Et pour développer son puissant encouragement des Juifs de cette époque-là, il leur dit « Votre salut est triplement assuré. » Et dans le texte, il y a vraiment les trois idées que est assuré parce que Dieu a promis. On va voir les versets dans Genèse où Dieu a fait des promesses à Abraham, parce qu'il fait référence à Abraham dans le texte. Et il va dire, non seulement Dieu a promis, mais il a fait un serment par-dessus. On sait, nous, par les Écritures, par notre connaissance des Écritures, que Dieu ne peut pas mentir. C'est absolument impossible que Dieu mente. Donc, juste le fait qu'il avait déjà promis, ça aurait dû être amplement suffisant pour les gens, pour dire « Oui, Dieu a promis et il va accomplir ce qu'il a promis. On n'a pas d'affaire à s'inquiéter de ça. » Pourquoi Dieu a rajouté un serment à cause de la faiblesse des croyants qui ont besoin de se faire doublement rassurer? Si Dieu, en plus de promettre, il fait un serment comme de quoi que la promesse qu'il a faite est vraie, là, c'est appuyé fort, 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 comme on dit. Alors, Dieu a un peu pitié de notre misère, de toujours notre incrédulité. Il nous l'a promis, on le sait, mais on a peur. Il y a un coup qui ne l'accomplit pas. En plus, Dieu dit, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. En plus, je jure, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? C'est vraiment fort, hein? C'est Dieu vraiment. Et la troisième idée, il va vouloir démontrer la solidité de leur salut dans la personne même de Christ, qui est déjà au ciel, et la Bible dit que les élus sont en lui. Quand il est venu sur la terre, on était déjà en lui. Sur la croix, il a payé nos péchés à notre place, il a accompli la loi à notre place. Mais quand il est ressuscité, il est monté au ciel et déjà il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible nous présente ça comme nous, c'est comme une ancre de l'âme. Donc c'est assuré par la promesse, assuré par le serment qu'il a rajouté par-dessus et assuré par le fait que Dieu lui-même, Jésus, est assis à la droite du Père. Et nous sommes en lui, la Bible nous dit. Alors nous sommes ancrés en lui. Il n'y a aucune façon, là. Alors, la triple assurance qu'il vient leur montrer ici, ça devait être pour les Juifs quelque chose de très rassurant, surtout après le sévère avertissement qu'il leur avait donné. Parce que le sévère avertissement qu'il leur avait donné, ça avait dû avoir pour effet de dire, « Oh, qu'est-ce que c'est ça? On pourra-tu être des apostats? » Et là, lui dit, « Non, je ne crois pas que vous êtes des apostats, mais vous êtes en danger d'apostasie. » Parce qu'ils étaient tenté par l'idée de vouloir retourner dans le judaïsme, l'ancien système. Alors, il les avertit sévèrement, mais après, comme un bon père, un peu comme quelqu'un, nous, qu'on voudrait avertir quelqu'un, on l'avertirait de quelque chose d'un très grand danger, mais après ça, on dit, « OK, maintenant que je t'ai averti, si tu fais attention, tu n'as pas de danger de tomber dans ce danger-là, dans ce problème-là. » Alors, on est plus l'esprit éveillé. Alors, dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, le travail d'encouragement va se développer par une triple assurance de la solidité du salut, la promesse divine, le serment divin et la personne même de Jésus-Christ qui est déjà au ciel. Et la Bible nous présente comme de quoi nous sommes ancrés, une ancre. Vous savez comment c'est fait, hein? On est ancré en lui. Fait qu'on est attaché à lui d'une façon inébranlable, comme ça se dit dans le texte, sûr et solide, extrêmement sûr et solide. Alors, la promesse divine, le serment divin, la personne divine de Christ, qui sont des garanties immuables. Quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne change pas. Quand Dieu fait une promesse, ça ne change pas. S'il rajoute un serment par-dessus, ça ne change pas. Christ est au ciel, nous sommes en lui. C'est immuable. Voici comment l'auteur va procéder pour convaincre ses lecteurs de cette idée. On va commencer par l'étude des versets 13 à 15. Donc, il est assuré leur salut par une promesse divine, versets 13 à 15. Dans le verset 13, il nous dit « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. » Supposition, nous autres, des fois, j'ai entendu ça parfois chez des personnes, dire « Quand tu veux montrer à quelqu'un, je sais à quel point, je le jure sur la tête de maman. » Ça, là, dans une famille, si quelqu'un dit « Je le jure sur la tête de maman », c'est quelque chose que... Alors, il prend quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qu'il admire chez une personne, et il dit « Je le jure sur la tête de maman. » Le Seigneur, ici, il dit « J'ai juré, mais je ne peux pas jurer par plus grand que moi-même parce qu'il n'y a pas de personne plus grand que moi-même. » Alors, les Saintes Écritures nous présentent Abraham comme le père des croyants. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là. Les Juifs de l'époque avaient une très haute estime du personnage d'Abraham. Ils se considéraient comme étant la postérité d'Abraham. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va ici introduire ce personnage central du peuple d'Israël, un patriarche, pour leur rappeler de très importantes vérités. Pour vous démontrer que les Juifs croyaient vraiment qu'ils étaient des descendants d'Abraham, qu'ils étaient la postérité d'Abraham, on va aller dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 8, verset 39. Alors ici, c'est les Juifs qui répondent au Seigneur. Ils disent, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Voyez-vous, dans le verset, il y a deux vérités qui sont dites. Il dit, eux, ils croyaient, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Alors, les Juifs avaient l'idée, la conception qu'ils étaient tous des enfants d'Abraham. Et quand Jean-Baptiste est venu, il disait, « Nous sommes les enfants d'Abraham. » Et Jean-Baptiste les avertissait très sévèrement, « Produisez du fruit digne de la repentance. » Sinon, il dit, « Dieu peut susciter des croyants à partir de ses pierres. » En voulant dire, là, c'est pas parce que vous dites que vous êtes les descendants d'Abraham que vous êtes nécessairement des croyants. Maintenant, si on veut savoir à quoi ici la Bible fait référence quand il nous dit que Jésus a, que Dieu a promis le salut, il faut aller dans le livre de la Genèse. La promesse que Dieu fit à Abraham fut donnée et révélée graduellement. Elle s'est faite en... Donc, il en a révélé une partie, puis un petit peu plus loin, il en a donné une autre partie, puis un petit peu plus loin, il en a donné une autre partie, et la promesse, c'est l'ensemble des trois passages. On va aller dans Genèse 12, verset 3. Ça, c'est la promesse initiale que Dieu a fait à Abraham, et il est important de saisir l'âge d'Abraham lorsque Dieu lui a fait cette promesse-là. Quel âge avait-il? 75 ans. Dieu a fait la promesse à Abraham alors qu'il avait 75 ans. Il lui dit dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyez-vous, il en disait déjà pas mal. Mais un petit peu plus loin, dans Genèse 17, versets 1 à 7, là, il va lui en révéler plus. Mais il y a une chose qui est importante à réaliser, c'est que dans Jean 17, la promesse est ici réitérée à Abraham. Lorsque Abraham se fit promettre un fils alors qu'il avait 99 ans. Il avait 99 ans, là, Dieu lui dit, « Je vais faire en sorte que tu vas avoir un fils, et ce fils-là va s'appeler Isaac, et ce fils-là va être le début de la lignée qui va conduire vers Christ. Imaginez-vous un gars qui se fait dire à 99 ans, sa femme à 90, Dieu te dit, l'année prochaine, à cette heure-ci, tu vas avoir un enfant. Abraham fait un petit sourire, sa femme était dans la tente en arrière, ceux qui ont déjà lu Genèse, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle rit. Important de réaliser que là, Dieu a fait la promesse à Abraham alors qu'il avait 99 ans, et alors qu'il lui promettait que le fils qui viendrait de lui ne serait pas le fils de Keturah, de sa servante. Parce qu'on sait que, maintenant, il y en a un qu'elle a manqué de foi, sa femme. Elle dit, voyons donc, là, je suis rendu vieille, ça se peut pas, j'ai des enfants. À cette époque-là, ça se faisait de dire à l'homme, va vers ma servante, et l'enfant qu'elle va avoir de toi va être comme mon enfant, puisque c'est moi qui l'autorise à le faire. Alors, voyez-vous, la chair ne croit pas ce que Dieu dit, la chair, la nature pécheresse que nous sommes, ne le croyait pas, et elle dit, voyons, prends ma servante qui tuera, va vers elle, elle va avoir un enfant, et on va considérer cet enfant-là comme l'enfant qui vient de toi. Très charnel. Dieu a dit, non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que même si tu es vieille, tu vas avoir un enfant quand même. Et de cet enfant-là va découler toute la descendance de Jésus-Christ. On va le lire, Genèse 17, verset 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Voyez-vous, il passe de que le salut était disponible uniquement aux Juifs. Abraham, c'était l'idée qui voulait lui dire qu'il était pour avoir des nations aussi. Pas juste les Juifs. Les Juifs, à l'époque, croyaient qu'il y avait uniquement eux qui pouvaient recevoir le salut. Là, il leur dit, « Je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. » Donc, autrement dit, il va y avoir des élus dans toutes les nations du monde et non pas uniquement chez les Juifs. Verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. » Et celui de ta postérité après toi. Mais là, il se produit encore un autre élargissement de la promesse. Alors là, il va par petits morceaux, il en donne, puis ça, il en donne un petit peu plus large. Puis dans Genèse 22, là, il va y faire une promesse beaucoup plus grave, beaucoup plus grande, parce qu'elle arrive à un moment décisif dans la vie d'Abraham. Abraham, à un moment donné, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac. Isaac était né, là. Le fameux qu'on attendait, là, il est venu au monde et a grandi. Et Dieu lui avait dit que c'était par lui que viendrait le Messie. Et imaginez, Dieu lui dit, « Maintenant, ce que je te demande, c'est que je voudrais que tu me sacrifies ton fils. » Apprenais-tu de la foi un petit peu pour vouloir le faire? On sait que Dieu, dans l'histoire, n'a pas permis que ça arrive. Mais quand même, c'était la foi d'Abraham qui était mise à l'épreuve, qui était testée. Dans Genèse 22, versets 15 à 18. Alors ici, c'est la phase finale de la promesse à Abraham après que celui-ci ait obéi à Dieu en acceptant de sacrifier son fils Isaac et que le Seigneur éprouva son obéissance. Dans le verset 15, ça dit, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même. » Voyez-vous le fameux passage tout à l'heure où il dit, « Dieu dit, je le jure par moi-même. » C'est à Genèse 22 qui fait référence. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Autrement dit, il a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils. Abraham obéit, et c'est après qu'il a eu obéi, que Dieu lui a fait cette promesse-là. Très significatif. Parce que on sait qu'il n'a pas hésité à donner son propre fils, de la même manière que le père n'a pas hésité à donner son propre fils. Il y a des parallèles intéressants à faire. Il dit, dans verset 16, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Ça voulait dire que le nombre de personnes qui seraient sauvées éventuellement, quand on parle du sable, si tu mettrais à compter les grains de sable sur le bord de la mer, il y en a. Hein? Alors il dit, je vais te bénir à ce point-là. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as choisi, tu as obéi, c'est-à-dire à ma voix. On le sait, lorsque Dieu parle, il est absolument impossible qu'il mente. Ainsi, sa parole a une valeur absolue, solennelle, permanente et inébranlable. Ça aurait dû suffire. Dans Ésaïe 45, verset 3, le Seigneur dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Oui, le Seigneur ici, il dit qu'un jour, tout genou humain va fléchir devant lui, va être jugé, va reconnaître que le jugement de Dieu il leur dit, est bon, quand on parle de fléchir le genou, c'est vraiment cette idée-là. Seigneur, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alors, quand le Seigneur dit quelque chose, dites-vous une fois, il n'y aura pas un être humain qui ne fléchira pas le genou devant, même s'il n'est pas sauvé, car Dieu va le juger. Personne ne va fléchir le genou dans le sens d'acceptation que ton jugement est absolument correct. Et dans le verset 14, il nous dit quelque chose. « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Est-ce qu'il y avait besoin d'ajouter « certainement » Pourquoi il l'a mis encore pour donner plus d'emphase, plus d'assurance? Ce que Dieu dit est d'une certitude absolue. Il bénira et il multipliera. Verset 15, Hébreux, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Là, ce qui est intéressant, c'est de mettre toutes ces choses-là en perspective. Parce qu'on sait que quand Dieu a appelé Abraham à sortir de sa terre, il avait 75 ans. Il est mort à quel âge, Abraham? 175 ans. Donc, entre le moment de son appel et le moment de sa mort, il y a eu une période de 100 ans. Et est-ce que Dieu a éprouvé son serviteur durant toute cette période de foi-là? Très certainement. Parce que ça dit ici dans le verset 15, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il a été appelé à 75 ans, il est mort à 175, donc sa vie de foi s'est exercée sur une période de 100 ans. À cette époque-là, on vivait vieux. Il est mort à 175 ans et le Seigneur lui avait donné de multiples occasions pour éprouver sa foi. Donc, lorsqu'un être humain reçoit une promesse d'une telle qualité, il se doit d'y croire de tout son comportement. C'est ce que fit Abraham, il persévéra à la croire, à la promesse, malgré les très nombreuses difficultés. Il fut appelé à 75 ans, mourut à 175 ans. Il eut donc plus de 100 ans pour persévérer. Quand on dit « ayant persévéré », il a persévéré dans la foi pendant 100 ans. Dieu a conduit son serviteur dans des situations qui réclamaient l'exercice de sa foi. Là, on pourrait dire, ouais, mais quel exercice de la foi! Là, il suffit de retourner un petit peu dans Genèse, relire l'histoire d'Abraham, et on va voir que Dieu l'a placé très souvent dans des circonstances où il avait à exercer sa foi. Exemple, la rupture de liens familiaux. Genèse 12, versets 1 à 9. On n'ira pas nécessairement les lire au complet, mais qu'est-ce qu'il lui demandait? Il lui demandait de sortir de sa famille. Il lui demandait... Lui, il a parti avec son père et il a parti avec son neveu. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il lui avait demandé. Dieu lui avait demandé de partir seul, mais il avait quand même brisé des liens familiaux. Quand tu es dans un pays, Dieu te dit « Prends, sors tout seul. » Lui, il avait comme un petit peu désobéi. Il a sorti avec son père, puis il a sorti avec son neveu. Mais il a quand même brisé l'ensemble des liens qu'il y avait dans le pays dans lequel Dieu l'avait placé. Il lui demandait de sortir de là. Alors, la première test, Dieu te demande de faire quelque chose, ça l'implique le bris de liens familiaux. Il n'a pas hésité à le faire. On pourrait aller lire les passages, mais je vais juste vous donner la référence. La rupture de liens familiaux. Autre chose qui est arrivée à Abraham, si on se souvient de l'avoir lu dans Genèse 12, Dieu a permis qu'il traverse un moment dans sa vie où il y a eu une très grande famine dans le pays. Alors, c'était quelque chose de... Alors, quand tu es dans une famine, Dieu a permis qu'il y ait une famine pour que Abraham apprenne à lui faire confiance, malgré les circonstances extérieures qui avaient l'air à dire, rien à faire, tu vas crever de faim. Mais il a passé à travers. Autre chose qui est une épreuve, plusieurs peut-être d'entre vous me diront, mais que Dieu me l'envoie, cette épreuve, c'est la richesse. Quand il est allé se battre contre les rois, il est revenu, il avait beaucoup de biens. Et Abraham est devenu tellement riche que lui et son neveu, il avait tellement de bétail qu'ils ne pouvaient pas l'un et l'autre vivre dans le même terrain. Alors, Abraham a permis que Lot s'en aille dans le meilleur terrain. Encore là, Abraham a été très, très plus que gentil envers son neveu. Il lui a laissé le choix, le premier choix, et lui a pris le deuxième. Si je vous posais la question, est-ce que si Dieu nous enverrait la richesse, est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une épreuve? C'est une épreuve, définitivement. Quand vous regardez tout ce que Jésus dit sur les riches, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu plus qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. La richesse, même pour un croyant, peut-être quelque chose que Dieu envoie dans le but d'éprouver, voir si tu vas demeurer fidèle malgré les richesses, malgré les facilités que la richesse te donne. Quelqu'un qui est riche et qui est chrétien, il est vraiment éprouvé. Dans le sens que il est toujours placé devant des circonstances où il se doit de partager sa richesse avec les autres. Et quand on devient riche, la tentation fondamentale, c'est « me, myself, and I, j'en ai jamais assez. J'ai 1 million, j'en veux 2. J'ai 2 millions, j'en veux 4. Demande-moi pas 5 cents, j'ai pas d'argent. » Alors, c'est ça la richesse que ça amène. Quelqu'un qui a la foi, être placé dans des circonstances de richesse, c'est une épreuve de ta foi. Abraham a traversé cette épreuve-là. Autre, la puissance. Quand il a eu battu les rois, et il devenait un homme puissant, il devenait un homme reconnu dans son milieu comme ayant de la puissance. La puissance aussi, quand elle est envoyée à un homme, soit la renommée, ou... Ça a quelque chose que l'être humain, par nature, il est porté à s'enfler la tête. Et si tu lui donnes de la puissance, remarquez en général les gens qui sont riches et célèbres, ils ont de la misère à gérer ça. Prenez la vie de n'importe qui est riche ou célèbre, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de difficultés à gérer ça. Souvent, ça leur fait faire des extravagances sans aucun sens. Comme Elvis Presley qui partait de chez eux à Memphis puis allait manger un hamburger à New York en prenant son avion. C'est-tu assez fou? Tu sais, c'est dépenser peut-être 50 000 $ pour aller manger un hamburger. Ça fait faire à l'homme des foleries que normalement un chrétien qui aurait la richesse ne devrait pas... La puissance, c'est enivrant et l'être humain n'est pas bâti. C'est rare les êtres humains qui se font confier de la puissance ou de l'autorité, et qui sont capables de la gérer. Et notre ami a connu non seulement la richesse, mais la puissance également. Il a connu aussi l'attente de son fils Isaac, qui avait été promis à 99 ans, dans Genèse 16. Lui-même, alors, était âgé de 99 ans et son épouse, Sarah, 90. Imaginez-vous, vous êtes un croyant, puis Dieu dit, l'année prochaine, à cette heure-ci, tu vas avoir un enfant, mais tout est rendu à 99. C'est tout. Oh, Seigneur, il me semble que... Lui, il l'a cru, mais sa femme, elle ne l'a pas cru. Elle a parti à rire, étant dans sa tente, elle a parti à rire. Voyons donc. Ouais, si je vais avoir un enfant à 90 ans, réveillons-nous. Qu'est-ce qu'Abraham l'a cru? Et comment et il a traversé l'épreuve? Parce qu'il l'a eu, son fils. Même si son épouse avait 90 ans. Pensez-vous que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur de rendre une femme qui est rendue dans sa période où elle ne devrait plus avoir d'enfant, puis que le Seigneur dit, « Toi, je veux que tu n'aies un cette année. » Aucun problème. Et la dernière épreuve, et non pas la moindre, l'appel au sacrifice d'Isaac, son fils unique et bien-aimé. Imaginez-vous ce que ça prenait comme foi. Autrement dit, ça nous dit un petit peu dans le livre des Hébreux, dans le chapitre 11, on va arriver plus tard là, où il nous parle de la foi d'Abraham. Pourquoi il n'a pas hésité à vouloir le sacrifier? Dieu a permis, il a arrêté la main, et il a permis qu'il trouve une bête, et tout ça, on sait l'histoire. Mais la foi s'exprimait par le fait que, même si tu me permets de le tuer, je suis sûr que tu es assez puissant pour le ressusciter. Tu as de la foi, ça, c'est pas de la foi. Si quelqu'un nous dirait à nous, je te demande de sacrifier ton fils, on arrête-tu une foi forte comme celle d'Abraham? Pourtant, il avait la foi que ce que Dieu lui demandait, il avait la force pour l'accomplir, parce qu'il lui avait déjà promis que son fils Isaac serait la personne par laquelle la lignée du Messie arriverait. Déjà la promesse, là, c'est comme s'il lui demandait une contradiction. Imaginez-vous dans sa tête à lui, il dit, « Tue ton fils, offre-moi-le en sacrifice. » Puis avant, il avait dit, « Je te promets que par lui... » Imaginez le combat dans la tête de la personne, là. Tu me demandes de tuer mon fils... Puis tu m'as dit que tu parles lui. Alors toi, tu disais, ben, si je le tue, la postérité n'arrivera pas par lui, la lignée messianique n'arrivera pas par lui. Imaginez-vous, là, c'était pas une petite chose. Pourquoi on a dit de lui qu'il devenait le père des croyants? C'est parce qu'il a traversé tellement d'épreuves qui démontraient l'authenticité et la profondeur de sa foi. C'est pour ça qu'il en parle comme étant. Alors, durant toutes ces années-là, de 115 à 115, Dieu a mis sur sa route une multitude d'occasions dans lesquelles il y a eu des chances, on pourrait dire. Mais la foi d'Abraham était éprouvée. Elle était réelle, elle était authentique. Maintenant, on va passer dans la deuxième idée. Il est assuré par un serment divin, versets 16 à 18. On va commencer par le serment 16, le verset 16, c'est-à-dire... C'est-à-dire, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. » Souvent, des hommes, quand ils vont s'ostiner, puis qu'ils veulent démontrer, ils vont jurer par quelqu'un plus grand qu'eux. Comme tout à l'heure, on parlait, « Je jure sur la tête de maman. » Si quelqu'un, une grosse famille, puis il dit à quelqu'un pour briser un différend, il dit, « Regarde, c'est pas vrai ce que tu dis là, je te le jure sur la tête de maman que je n'ai pas fait ça. » Il prend quelqu'un plus haut que lui et ça met fin aux différends. Normalement, les gens croient à ce qu'il dit à ce moment-là. Alors, il dit, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie. » Dieu a daigné confirmer par un serment sa promesse à Abraham. Il avait déjà promis, mais il ajoute un serment par-dessus. C'est un signe de quoi? Condescendance. Dieu connaît notre misère. Dieu connaît notre faiblesse. Et il vient ici fortifier la foi des siens en ajoutant quelque chose d'important. C'est un geste d'une grande bonté et d'une grande miséricorde pour aider l'incrédulité naturelle de l'homme qui a déjà reçu la promesse. Le but de Dieu est d'éliminer absolument tout doute pour confirmer de façon irrévocable et irréversible et pour donner encore plus de crédit à ce qui est déjà infiniment solide. La promesse est infiniment solide. Mais il ajoute un serment par-dessus. Il dit, je ne peux pas jurer par plus grand que moi, ça n'existe pas plus grand que moi. Mais je le jure quand même. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence. Qu'est-ce que Dieu cherchait à faire? Ça le dit. Il voulait nous montrer avec plus d'évidence. L'évidence, on sait, c'est des preuves. Il voulait nous montrer avec plus de preuves. À qui il voulait démontrer ça, que ça dit dans le verset? Aux héritiers de la promesse. C'est qui les héritiers de la promesse? C'est les croyants de toutes les époques, de tous les temps. L'immutabilité de sa résolution. L'immutabilité, ça veut dire quelque chose qui ne change pas. Une décision qui a été prise, mais qui ne peut pas être changée d'aucune façon. Et le mot clé du verset 17, c'est vraiment le mot « résolution ». Parce qu'on pourrait, à première vue, en français, dire « j'ai la résolution de faire telle et telle chose ». Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre le mot « résolution » dans le grec. C'est vraiment le mot, l'idée du décret éternel de Dieu. Il est intervenu par un serment. Alors, Dieu a voulu rassurer les élus par une double certitude. Son décret éternel concernant le salut des élus et un serment concernant son absolue véracité. Le décret éternel... Là, ceux qui ont assisté en beau aux leçons de théologie, ça peut peut-être vous sonner une cloche. Sinon, le décret éternel, c'est une doctrine biblique qui dit que Jésus, le Père, Dieu le Père, dans toute éternité, a eu une seule pensée, un décret. Il a décidé, il a résolu quelque chose. Que tout ce qui était pour se dérouler dans le temps et dans l'espace... Dans les moindres détails, une seule pensée fixe, immuable. Et ce qui se déroule dans le temps, ce qu'on voit se dérouler dans le temps, c'est la providence. Autrement dit, le décret, c'est la décision de Dieu dans l'éternité. La providence, c'est l'exécution dans le temps de ce que Dieu a décidé dans l'éternité. Et le décret de Dieu comprend absolument toute chose qui arrive. Toutes choses qui sont arrivées depuis le début de la création jusqu'à la fin, tout a été décidé absolument, de façon absolue par Dieu, y compris le destin éternel des hommes. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Fiez-vous sur votre salut parce que ce que Dieu a décidé d'éternité, pour donner une image, une idée juste du décret de Dieu, ça comprend absolument tout. Tu sais, dans Matthieu, le Seigneur, il dit, le Père, il n'y a pas un moignon qui tombe sans sa volonté. Tout ce qui arrive sur la terre, la vie des insectes, la vie des fleurs, la vie des arbres, la vie des planètes, la vie de l'univers, au niveau atomique, tout ça, là, ça a été décrété par Dieu de la manière dont ça serait pour arriver dans le temps, par la providence. Mais à l'intérieur de ça, il y avait la doctrine de l'élection, que Dieu a choisi les siens de toute éternité. Et ce que Dieu a décidé dans l'éternité, c'est immuable, ça ne changera pas. Il voulait leur rappeler que la décision que Dieu avait prise, il n'y a rien à faire. Vous allez vous rendre au bout, parce que Dieu a décidé que c'était pour vous rendre au bout. Avant la fondation du monde, Dieu a choisi en Christ pour la gloire éternelle, selon son dessein éternel et immuable, et selon son conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, les êtres humains prédestinés à la vie. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour, sans qu'aucune condition ou cause dans la créature ne l'y pousse. Ça, si vous voulez vérifier ça, allez dans votre confession de foi réformée baptiste. On dit que c'est notre confession de foi de l'Église, et de, non seulement de nous, mais de beaucoup d'Églises dans le monde. Et elle existe depuis 1689. C'est pas une nouveauté, là. Alors, ça, c'est le décret de Dieu est expliqué en détail dans ce chapitre-là. Et ici, ce qui est important de réaliser, moi, je l'avais déjà étudié ce passage-là, mais je n'avais pas compris que le mot résolution veut parler du décret de Dieu. Et c'est en revisant, en réutilisant d'autres auteurs qui ont dit de façon absolue. Ici, on parle du Council of God. On parle du conseil éternel de Dieu concernant tout ce qui était pour arriver par la Providence, dans les moindres détails, sur tous les aspects possibles et imaginables de la vie, à la fois sur la terre et dans l'univers. Alors, le mot « résolution » du verset 17 fait référence au décret éternel de Dieu concernant toute chose qui arrive. Cette décision divine et immuable ne peut être changée parce qu'elle a été prise avant l'existence du temps. La Providence, quant à elle, n'est que le déroulement dans le temps de toutes les facettes de cette décision. N'importe quoi que vous voyez s'arriver au cours d'une journée, c'est le déroulement de ce que Dieu avait décidé de toute éternité. Comme c'est rassurant. Dieu te contrôle de tout. Il sait tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe est sous son absolu contrôle pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a décidé de tout prouver comme ça. Qui sont les héritiers de la promesse? Ça ici, c'est d'une extrême importance à saisir. Parce que on parlait tout à l'heure, il parlait d'Abraham, il disait à sa postérité. Maintenant, comment peut-on définir qui est la postérité d'Abraham? Le Nouveau Testament nous donne la clé. Galates 3, verset 16. Ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Vous remarquez, le mot est au singulier. « Sa postérité à lui. » C'est un possessif, là, S-A, à sa postérité. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est quoi? C'est qui sa postérité? C'est-tu l'ensemble des Juifs qui sont descendus de lui? Ou si c'est l'ensemble des élus de Dieu? Alors ici, il dit, il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Pour ça qu'il disait, il va avoir toi, il va avoir Isaac, il va avoir Jacob, et la lignée va se perpétuer jusqu'à l'arrivée de Christ, parce qu'on est en lui. Ça, c'est une importance capitale à saisir, parce que les Juifs de l'époque ont eu beaucoup de difficultés à comprendre ça, parce que pour eux, ils étaient la postérité d'Abraham. On est des fils d'Abraham, comme on a lu tout à l'heure dans Jean 8. Ils disaient, « Quoi tu nous dis là? On est des fils d'Abraham? » Jean-Baptiste disait, « Non. » La postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Galates 3,16 vient nous donner la définition de ça. Je leur lis, ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « et à ta postérité », c'est-à-dire à Christ. Les promesses ont été faites à la postérité d'Abraham, qui était pour venir dans le temps, beaucoup d'années après, mais déjà toutes les promesses étaient ceux qui étaient en Christ. Autrement dit, la promesse que Dieu a fait à Abraham va se réaliser, va s'accomplir par la personne de Christ et tous ceux qui sont en lui, que le Père a décidé de toute éternité qui seraient des élus, c'est immuable. Galates 3, 29, que de bien, ça dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si on est en Jésus-Christ, on est la postérité d'Abraham, comme croyant. C'est ce que ça dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Les deux choses immuables dont la Bible nous parle ici, dans ce verset-là, c'est le décret éternel de Dieu concernant l'élection. Et pas seulement l'élection, le décret, ça comprend absolument toute chose, mais entre autres, l'élection est incluse là-dedans. Et le serment de Dieu. Ça, c'est deux choses immuables. Psaume 89, versets 34 et 35, le Seigneur dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? » Tite, chapitre 1, versets 1 et 2, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Où la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, bien important de saisir que sa postérité, c'est Christ. Si nous sommes des élus, nous sommes en Christ. Donc, nous sommes les héritiers de la promesse que Dieu faisait à Abraham, qui comprenait, entre autres, le salut. Hébreux, on parle du verset 20. La troisième idée qu'on va regarder, il est assuré par une personne divine. On a parlé tantôt de l'image de l'ancre. C'est comme si Jésus était au ciel, il y a une ancre qui est accrochée en lui, et nous sommes en lui, nous sommes déjà en lui, et l'assurance de notre salut est aussi solide parce que ça parle de mots. Ça dit, cette espérance, nous la possédons. L'espérance, c'est Jésus-Christ qui est déjà au ciel, qui va revenir. Nous la possédons comme une ancre de l'âme. Notre âme est ancrée en lui, dans le ciel. Puis, voyez-vous les qualificatifs que ça nous dit de cette ancre-là? Sûr et solide. On est ancré là, il n'y a rien à faire, on ne sortira pas de là. Alors, dans le verset 19, cette espérance, nous la possédons. Alors, c'est important de réaliser que la troisième partie, quand on parlait de triplement assuré, la promesse, le serment, la personne. La personne de Christ elle-même. Dans le verset 19, ça dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Souvenez-vous du tabernacle. Le voile séparait le saint du saint des saints. Les Écritures nous disent dans le Nouveau Testament que la voie vers Dieu n'était pas encore ouverte tant que Jésus-Christ n'était pas mort. Quand Jésus-Christ est mort, il s'est produit un phénomène extraordinaire. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Quand on parle du voile du temple, c'était le voile qui séparait le saint du saint des saints. Le saint des saints, c'était l'accès direct à Dieu. Les Écritures nous disent que c'est par ce geste-là, la mort de Christ, que la voie de l'ouverture vers Dieu nous était ouverte. Alors que ça nous dit qu'il est entré au-delà du voile, de quoi il parle, il fait référence à l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Mais on va le lire dans Hébreux 9, juste un petit peu plus loin, pour qu'on soit conscient de ça. Hébreux 9, versets 6 à 12. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. » Vous souvenez-vous de ça? Première partie du tabernacle. « Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, voyez-vous, les sacrificateurs ordinaires ne pouvaient pas rentrer dans la partie très sainte, qu'on appelait. Il fallait que ce soit le souverain sacrificateur, puis il ne pouvait pas y aller tous les jours. Il fallait qu'il y aille uniquement une fois par année. » Ça dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le saint, regardez bien, c'est les Écritures, on prend les passages du tabernacle dans le livre de l'Exode et on vient les interpréter avec un passage de Hébreu. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait que l'ouverture s'est faite? C'est la mort de Christ. Et quand Christ est mort, ça nous dit dans le Nouveau Testament que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'était un voile, ça avait un pouce d'épais. Dieu a permis qu'il se déchire du haut en bas. C'était l'idée de démontrer qu'à cause de la mort de Christ, maintenant l'accès au lieu très saint, à Dieu lui-même, nous est maintenant ouverte. Et quand on continue, verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voyez-vous, le verset 11 nous donne la clé. « Mais Christ, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est de ça qu'on parle. Christ est entré une fois pour toutes au-delà du voile dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, qui était bon juste pour un an. Lui est entré une fois pour toutes parce que son sang a une valeur éternelle, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est en train de leur faire prendre conscience de ça, mais là, on est rendu dans Hébreux 6, ça c'est un petit peu plus loin, mais Hébreux, c'est une lettre. Alors, eux, ils l'ont lu d'une shot. Ils ne l'ont pas lu comme nous autres, petit bout par petit bout, pendant 20 quelques dimanches, 40 quelques dimanches. Les autres, ils l'ont lu d'une shot. Alors, quand ils l'ont lu d'une shot, c'est sûr qu'ils sont arrivés à Hébreux 9, là, ils ont compris que ce qui leur donnait une si grande assurance, la promesse, le serment, la personne de Christ qui est entrée au-delà du voile, qui est assis là et qui, comme une ancre, notre âme est ancrée en lui. Voyez-vous ce que je vous disais tantôt, ce qui se disait dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, versets 50 et 51. Quand Jésus est mort, ça nous parle de la mort de Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? C'est que l'ancien système est terminé. Tu n'as plus besoin de faire venir le sacrificateur une fois par année. Parce que le souverain sacrificateur, qui est selon l'ordre de Melchisédek, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu la rédemption éternelle. T'es-tu pour retourner dans un système comme ça quand tu sais que Jésus est là? Puis ton salut est ancré dans sa propre personne qui est déjà au ciel. Alors, ça nous dit, dans le verset, la dernière partie du verset 20, ça parle de Jésus, ça dit, « Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Le chapitre 7, on va beaucoup développer tout ce qui se rattache autour de Melchisédek. On va revenir autour de ce personnage-là. Mais là, ce qui était important pour eux de réaliser, c'est que Christ était le souverain sacrificateur et qu'il y avait une énorme différence entre les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament qui faisaient une job une fois par année puis qui c'était temporaire et la job, qu'on pourrait dire, du souverain sacrificateur avec un S majuscule, deux S majuscules, qui était Christ et que maintenant que c'est accompli, tu ne retournes pas dans l'Ancien Testament. Alors, Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Sa sacrificature est infiniment supérieure à celle d'Aaron. Ce qu'il est en train de vouloir leur démontrer, là. Supérieur à Moïse, supérieur aux anges, supérieur à Josué. Et là, il est en train de leur prendre un personnage. Quoi. Pour eux, tout le système judaïque était basé sur les sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints uniquement une fois par année. Il fallait qu'il rentre avec le sang, non pas... Christ est rentré avec son propre sang, c'est ce qui donnait de la valeur. Alors, on va revenir sur cette idée-là. Donc, ce qu'il veut démontrer, c'est que ce souverain sacrificateur-là, Christ, est infaillible. Son ministère est incessant. Donc, il continue de s'exercer. Il est efficace parce que eux, c'était pour un an. Lui, il est rentré une fois pour toutes. C'est fini. La question de la rédemption éternelle est réglée. Donc, son ministère à lui est éternel. Dieu a donc voulu donner aux élus l'assurance de notre sécurité et leur faire prendre conscience que cette même sécurité était complètement en dehors d'eux-mêmes. Moi, c'est une idée qui me fascine parce que si le salut, ce serait nous autres qui le géreraient, autrement dit, Dieu nous le donnerait puis on gérerait ça, c'est sûr que ça s'effoirerait comme dans tout ce qu'on fait, à peu près. Ici, il vient démontrer aux Juifs que leur salut ne dépend pas d'eux. Ça dépend de quelque chose qui est extérieur à eux-mêmes. La promesse de Dieu, depuis Genèse 12, 17 et 22, et le serment que Dieu a rajouté à ça, et l'ultime valeur du salut, on est en Christ, il a déjà traversé le voile, on est en lui, on est ancré à lui, notre âme est ancrée en lui. Moi, ça me fait un bien terrible parce que, je peux vous dire une chose, ça fait 34 ans que je suis sauvé, puis s'il aurait fallu que le salut dépende de moi, c'est sûr que je l'aurais perdu en route. Mais, le Seigneur ne dépend, mon salut ne dépend pas. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Ma participation n'est pas nécessaire, c'est pour ça que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que à cause que le salut vient de l'Éternel, il l'a promis, il a ajouté un serment, et ici, il vient nous rappeler que nous sommes ancrés en Christ. Ça peut être plus solide que ça. Il leur a dit dans le verset 9, « Vous n'êtes pas des apostats parce que vous pratiquez les vertus théologales. Maintenant, je vous dis une chose, votre salut est ancré dans la promesse de Dieu qui ne ment jamais. Et en plus, il a ajouté un serment à ça à cause de notre faiblesse, de notre incrédulité naturelle. Et en plus, rappelez-vous que votre salut est ancré en Jésus-Christ qui a déjà traversé le voile et qui a déjà opéré la rédemption éternelle. » Que c'est magnifique! Le salut, quand on le comprend comme il faut, là, c'est tellement c'est majestueux. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Dieu a promis. Croyons en lui. Croyons en sa parole. Croyons en ses promesses. J'ai un cartable chez nous que j'avais déjà imprimé. J'avais trouvé ça sur Internet. Les promesses que Dieu fait dans la Bible, classées par catégorie. Le cartable est CDP. Ça dit, croyons en lui, en Christ, en Dieu, en l'Esprit. Croyons en sa parole. Croyons en ses promesses. Dieu a fait une multitude de promesses dans les Saintes Écritures. C'est à nous de les réclamer. On peut prier en réclamant une promesse. Seigneur, tu as promis. On a le droit de faire ça. Il veut qu'on fasse ça. Deuxièmement, Dieu a décrété et juré. Croyons en sa fidélité, croyons en sa force, croyons en son absolue solidité. Troisièmement, Dieu nous rassure. Nous sommes ancrés en Christ qui est déjà au ciel et nous sommes en lui. Il s'occupe de nous, de nos péchés, de nos prières, de nos besoins. Il est le roc séculaire. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus intéressante à connaître des Écritures. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Alors, ici, il est en train de dire aux Juifs, Dieu a promis, Dieu a juré, Dieu a décrété, et Jésus est déjà au ciel, nous sommes ancrés en lui. Donc, soyez triplement assurés de votre salut. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Que le Dieu de vérité soit béni, que le Dieu de puissance soit exalté, que le Dieu de miséricorde et d'amour soit adoré. Amen.